C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit Shahad Salman.
Oui, Shahad Salman, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies et conseillère juridique chez Aligo Innovation. Aligo Innovation, une société de transfert technologique qui valorise les découvertes des universités québécoises. Bonjour Shahad.
Bonjour.
Shahad, bonjour. Nous sommes entrés dans l'ère des économies dites ouvertes, économies de partage, économies dites collaboratives. Les idées s'échangent, les idées voyagent, peuvent être reproduites partout, de plus en plus vite, aux quatre coins du monde. Alors dans ce contexte, au Canada, 2018, est-ce que ça sert encore à quelque chose la propriété intellectuelle?
Oui, c'est-à-dire que absolument, ça sert toujours. On le voit que c'est un actif qui a quand même une valeur commerciale. Donc, il faut rappeler que la propriété intellectuelle, c'est un actif intellectuel, c'est un droit intangible. Ça nous donne pas le droit de faire quelque chose, mais d'empêcher l'autre de faire quelque chose. C'est pas le meilleur comparatif, mais un peu comme un monopole. Mais c'est surtout d'empêcher les autres d'utiliser ce que nous, on a fait d'une certaine façon. Donc, un peu contrôler la valeur qu'on donne à ce qui a été créé.
À ce qui a été créé.
Pour les PME, parce que c'est, on sait que pour les grandes organisations, pour les institutions, notamment universitaires, l'idée de la propriété intellectuelle est assez familière, même si ça reste toujours très complexe. Mais pour les petites et moyennes entreprises en particulier, alors qu'on souhaite effectivement qu'elles soient de plus en plus innovantes et donc on veut aussi les aider probablement à protéger leurs innovations, les possibilités de la propriété intellectuelle pour ces PME restent un petit peu abstraites, doublées d'ailleurs d'une complexité dans le processus. C'est le plan légal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les formes que prennent la propriété intellectuelle?
Donc, la propriété intellectuelle, il y en a 5 principaux. Évidemment, les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, le dessin industriel et le secret industriel. On a ce qu'on appelle aussi les typographies de circuits intégrés. Il faut juste pas l'oublier, mais c'est moins connu, moins utilisé, donc les principaux. Si je détaille chacun de ces
actifs. Allons-y, soyons fous.
Oui, allez-y. Donc, le brevet, je vais laisser ça à la fin, qui est un peu plus complexe. On a les marques de commerce, qui sont une combinaison ou non de lettres, mots, symboles, sons ou designs qui servent à distinguer une compagnie. On a plusieurs marques, donc tous les marques
les
communément
marques.
Connues sont donc mentionnées, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. C'est protégé pendant 15 ans. Il n'y a pas vraiment d'enregistrement qui est obligatoire, mais faut rappeler que évidemment, il y a registre des marques de commerce, on peut l'enregistrer. Par contre, c'est généralement celui qui l'utilise en premier qui a le droit là-dessus. Donc, on a évidemment les droits d'auteur, on le sait tous. Ça protège les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques, etc. Ça aussi, on n'a pas besoin de l'enregistrer dès qu'on le crée, dès que ça a l'aspect créatif et évidemment plusieurs autres conditions. Dès qu'on le fait, on a le droit d'auteur. C'est protégeable pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. On a aussi les dessins industriels. Donc
c'est vraiment... justement dans le domaine technologique, peut-être ce qui occupe le plus les
Oui, surtout les dessins industriels et les brevets. Par contre, faut comme les logiciels, il y a un peu de droit d'auteur. Donc, c'est toutes des notions qu'il faut s'assurer de bien connaître pour savoir, une fois qu'on a découvert quelque chose ou qu'on veut mettre quelque chose sur le marché, de quelle façon on peut le protéger.
Et justement, Shahad Salman, excuse-moi de vous couper, ça coûte cher de se protéger. Est-ce que ça prend du temps?
Ben, en fait, justement, avec les droits d'auteur, les marques de commerce que j'ai déjà présentées, c'est sûr qu'il y a beaucoup, les marques de commerce, par exemple, il y a beaucoup d'argent qui est mis pour faire la recherche, surtout de savoir si la marque existe et de faire affaire avec un agent de marque. On peut prendre le risque qui n'est pas vraiment souhaitable d'inscrire ou d'en mettre une en public sans vraiment avoir fait les recherches nécessaires, mais on peut avoir des surprises à la fin. Les droits d'auteur, c'est une inscription qui n'est aussi pas obligatoire, mais on le fait pour s'assurer que le monde sache que notre droit d'auteur existe. Mais encore une fois, c'est un peu minime. Le plus gros vient lorsque vient le temps de faire un dessin industriel et le brevet.
D'accord. Audrey?
C'est intéressant ce que vient de dire aussi Shahad, parce qu'il y a une partie finalement de la propriété intellectuelle, peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais qui est de l'ordre du marketing.
Oui, absolument. C'est sûr que la marque de commerce principalement, mais il ne faut pas oublier que toutes ces propriétés intellectuelles, on peut les combiner. Donc, on peut avoir un produit qui a l'ensemble de ces marques, de ces propriétés intellectuelles, donc de ces protections-là. D'où pour les PME, mais aussi, bon, pour les grandes entreprises, c'est sûr qu'ils ont plus de moyens, mais pour les PME, de réaliser que c'est possible de protéger ce qu'ils ont dans les mains ou ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils vont mettre sur le marché de plusieurs façons.
Parce que c'est ça, ce que semblait dire Audrey, c'est qu'effectivement, l'arsenal est quand même solide pour les grandes entreprises. Elles sont quand même suffisamment, on va dire, à affirmer dans le domaine de la propriété intellectuelle. Une PME, aujourd'hui, il semble que c'est un peu mystérieux pour eux, tout ça. C'est pour ça que c'est vrai qu'on défriche un petit peu, puis j'imagine que c'est ce que vous faites chez Aligo. Le temps semble long quand on veut déposer un brevet. Or, aujourd'hui, l'innovation, elle va vite. Il faut qu'on soit, rapide, qu'on soit efficace. Comment on peut accélérer le processus pour une PME notamment, éviter que le temps joue finalement contre l'intérêt des innovateurs?
Bon, c'est sûr que le temps, il est prévu dans la loi. Donc, si on prend par exemple le brevet, puis juste rappeler que le brevet, ça doit être quelque chose de nouveau, d'utile et d'inventif. Chacune de ces trois conditions ont plusieurs détails, mais si on s'en tient à ces trois conditions en général, c'est prévu dans la loi, mais c'est prévu aussi dans la loi que, de un, c'est le premier arrivé, premier servi, donc il faut être le premier à protéger son droit. Il faut généralement s'assurer de ne pas le divulguer avant. Bon, on a des exceptions aux États-Unis et au Canada qui permettent dans le un an de la divulgation de protéger, mais ça nous empêche de protéger dans plusieurs pays du monde par la suite. Donc, quand on dit le temps, c'est ce qui est prévu à la loi. Donc, on protège après 12 mois si on est au stade provisoire. Donc, on protège vraiment la base rapidement. On a 12 mois par la suite. On a le choix d'aller en phase nationale et protéger dans 148 pays avec une procédure, ce qu'on appelle le PCT. Et par la suite, on attend un autre 18 mois pour par la suite choisir chacun de ces pays. Donc, à la base, c'est long. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de va-et-vient avec les examinateurs par la suite. Donc, un brevet, facilement, je veux dire, si on est chanceux, c'est 5 ans, mais dans certains domaines, ça va jusqu'à 10 ans pour avoir la protection.
10 ans.
Shahad parle de
protéger, hein.
Oui.
Et se faire venir l'idée.
Shahad parle de chance. Et effectivement, lorsque je l'écoute, ça me rappelle quand même que l'acquisition d'un tel actif, c'est pas une dépense en soi ou une procédure. Hein. C'est vraiment un investissement avec tous les risques que comporte l'investissement. Parce que même si on brevette, ça ne garantit pas finalement la rentabilité de la recherche, la rentabilité de l'innovation et puis même de l'acquisition de cet actif. Alors, c'est quand même assez risqué comme investissement. Quelles sont peut-être les erreurs à éviter pour s'épargner une déception, surtout pour une petite et moyenne entreprise qui mise probablement tout sur l'acquisition de ce brevet?
Bon, c'est sûr que avant de mettre tout l'argent nécessaire, idéalement faire la recherche de base de ce qui existe déjà, donc l'or antérieur, ce qu'on appelle l'or antérieur, pour que vraiment la demande de brevet soit considérée comme quelque chose de nouveau, donc qui n'a jamais été publié quelque part, qui n'a jamais été réfléchi, mis sur l'Internet, mais aussi déposé. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frais qui sont engagés avec cette recherche-là, surtout quand on ne connaît pas les bases de données qui existent. Mais vraiment, ça, c'est vraiment l'erreur numéro un, ainsi que la divulgation de l'idée, de l'invention avant la protection.
Mais c'est ce qui pose aussi la question du premier brevet. Hein. Souvent, c'est difficile de déposer quand on est une PME puis qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Le gouvernement du Québec avait lancé en 2013 une initiative à ce sujet, qui a récemment d'ailleurs été renouvelée et bonifiée. C'est la mesure dite premier brevet pour inciter les PME justement à aller chercher ce premier brevet. Est-ce qu'on observe là, en 2018, les effets d'une telle mesure, Shahad Salman?
En fait, ce que je peux vous dire, c'est que Aligo et Innovation, comme vous l'avez dit au début, c'est du transfert technologique. On commercialise l'innovation venant des universités, mais de quelle façon on le fait? Soit par licence, soit par la création d'entreprises autour d'une technologie qui est prometteuse. Donc, ce que je peux en dire, c'est que nous, on a vu que ça peut être bénéfique, ce premier brevet, pour une entreprise existante qui décide de s'embarquer dans le premier brevet, parce que ça donne accès à des crédits d'impôt. Évidemment, je ne suis pas la fiscaliste pour donner tous les détails, parce qu'il y a plusieurs conditions qui s'appliquent, mais certainement, de ce que nous, on a vu, c'est bénéfique, cette idée de premier brevet, donc des avantages à déposer le premier brevet.
Alors, on voit probablement qu'avec cette mesure-là, là, on cherche à améliorer cette capacité là, d'acquérir des droits, des produits de propriété intellectuelle. De manière plus générale, est-ce qu'on l'encadrement canadien pour la propriété intellectuelle est-il compétitif? On pense quand même à certains secteurs stratégiques, là, par exemple comme milieu pharmaceutique, mais de manière plus générale,
l'aérospatiale,
comment on se positionne au Canada quant à l'efficacité ou la qualité avec laquelle on protège les innovations?
Bon, c'est important justement par rapport à cette question de rappeler que la propriété intellectuelle, c'est territorial, donc c'est vraiment dans chaque pays qu'il faut protéger. Et on a un système qui est quand même bien établi, c'est du droit fédéral, donc c'est la même chose à travers le Canada, c'est pas par province. Au niveau des protections que nous, on voit lorsqu'on reçoit les inventions, c'est sûr qu'on protège la plupart du temps dans le territoire canadien parce que la technologie ou l'invention est partie du Canada. C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire, on en entend souvent parler, d'être plus compétitif au niveau de la protection, au niveau des gens qui ont envie de protéger au Canada. C'est sûr que notre marché est plus petit que celui des États-Unis, donc il y a certainement des acteurs, des entreprises qui priorisent les États-Unis. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire, mais en même temps on est dépendant du marché aussi. Il y a de plus en plus, on le voit, la Chine qui est en train de devenir une place importante ou protégée parce que les gens voient de la valeur de protéger en Chine, surtout que depuis que leur système est un peu plus bien ficelé, qui protège meilleur les inventions.
Mais là, ce cadre-là, le Canada reste attractif parce que c'est quand même un petit marché, soyons honnêtes.
C'est sûr que le Canada, le système, que évidemment il y a toujours de l'amélioration dans les lois à faire, mais c'est sûr qu'on a un beau système qui est assez attractif, du moins pour les inventeurs ici au Canada.
Alors justement, le gouvernement du Canada a sorti il y a pas très longtemps la stratégie canadienne en propriété intellectuelle. C'est pas un encadrement complet, mais on sent vraiment une volonté d'améliorer certains éléments, notamment législatifs. Il y a vraiment une volonté de mieux sensibiliser les entreprises sur les possibilités de la propriété intellectuelle. Il y a une idée qui semble intéressante, cette idée notamment de collectif de brevets, peut-être pour faciliter l'accès. De manière générale, Shahad, quelles sont les évolutions notables à retenir et qui faciliteraient peut-être l'accès donc aux produits de propriété intellectuelle?
Bon, c'est sûr que cette stratégie, elle a beaucoup misé sur la sensibilisation, qui est vraiment quelque chose d'important. Puis on l'a vu aussi, si on suit les différentes institutions publiques en propriété intellectuelle canadienne sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs à partager et à sensibiliser les PME. De plus en plus, on les amène aussi à dire de sensibiliser les inventeurs dans les universités. Donc, on ne va jamais dire assez oui, sensibilisation, parce qu'ultimement, c'est la seule façon que les gens réalisent que la propriété intellectuelle existe et que ça peut être une valeur économique pour la compagnie.
Mais, et un chiffre, hein, parce qu'il faut, enfin plusieurs même d'ailleurs, parce qu'on peut mettre souvent en évidence le fait que propriété intellectuelle, c'est du temps, c'est du coût, mais comme disait très justement tout à l'heure Audrey, c'est de l'investissement, ça peut être rentable. Des chiffres justement qui sont fournis par le ministère de l'économie au Québec. Les PME qui sont titulaires de propriété intellectuelle sont 4 fois plus portées à exporter. Elles ont 64% plus de probabilité d'être des entreprises à forte croissance. Elles versent des salaires 16 fois plus élevés et elles touchent des revenus de 8 à 10 fois plus élevés que les autres. C'est des chiffres quand même qui sont assez conséquents. Ça marche en fait là.
Oui, absolument, ça marche. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaie de favoriser lorsqu'on reçoit une invention, c'est de voir à la base, est-ce qu'elle est protégeable? Et si elle est protégeable, c'est certain que c'est un facteur important pour un plus grand potentiel commercial.
Merci Shahad Salman. Je rappelle, vous êtes juriste spécialiste des questions de propriété intellectuelle chez Aligo Innovation.